Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez passé un bon week-end. Le week-end n'est d'ailleurs pas terminé. Nous, hier, c'était un jour particulier pour ce week-end. C'était le 22 juillet. Vous allez me dire, mais c'était le 22 juillet pour nous aussi. Oui. Mais nous, le 22 juillet, c'est une date bien particulière, puisque c'est notre anniversaire de mariage. Et il se trouve, c'était pas fait exprès, mais que notre texte d'aujourd'hui, Ésaïe 48, eh bien, c'est, on trouve dans ce texte notre verset de mariage. C'est un verset que nous avons mis sur notre faire-part, c'est aussi une référence que nous avons fait graver dans nos alliances. Et c'est aussi un tableau que nous avons accroché dans notre salon. Et le voici, il dit, « Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. » Alors, ce petit clin d'œil, cette coïncidence, fait que je me suis dit, « Oui, tiens, ce matin, je vais en profiter de prêcher sur ce verset de mariage. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. Et je dois dire que, en 17 ans de mariage, le Seigneur nous a enseigné. Et le verset qui suit, c'est « Oh, si tu étais attentif à mes commandements ». Je pense qu'il y a des fois où on n'a pas forcément, en tout cas pour ma part, été attentif à tous les enseignements du Seigneur. Et puis, il y a des enseignements où clairement, j'ai plié ma vie à l'enseignement du Seigneur et j'en vois le profit, puisqu'il te dit « Je suis l'Éternel qui est ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit. » Oui, tu vas profiter dans ta vie de l'enseignement que je veux y mettre. Et puis, la deuxième partie du verset dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. » Nous, on a des plans pour notre vie. On a des rêves, on a des idées. Parfois, on a des intuitions ou des envies. Il y en a qui vont s'accomplir, se mettre en œuvre, il y en a d'autres non. Puis parfois il y a des chemins qu'on veut prendre et qu'on veut absolument prendre. Mais la question ici, c'est Dieu qui nous dit, mais moi je te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. Je suis l'Éternel ton Dieu et j'ai un plan pour ta vie. J'ai des choses en réserve pour toi. Il y a un chemin, il y a une voie. Et c'est dans cette voie-là que ta vie sera le plus profitable. Profitable pour toi-même, profitable pour les autres, profitable pour moi, dit le Seigneur. Alors hier, nous avions par Internet une petite conversation vidéo avec Émilie, qui termine son séjour outre-Atlantique, et qui nous dit « Ah non, mais c'est trop super, hein, moi je veux faire ma vie là-bas, hein, je veux m'installer là-bas. Hein. » Ça y est, elle veut devenir américaine. Bon, pourquoi pas? Et c'est vrai qu'on se dit « Tiens, la France c'est super, ou Lille c'est formidable, je vais aller faire ma vie là-bas, ou Tombouctou, ou New York, ou que sais-je. » Mais je lui ai dit à Émilie, mais c'est vrai, pourquoi pas? Je dis, mais ce qui compte vraiment, c'est que tu fasses ta vie là où le Seigneur te montrera de la faire. C'est ça qui compte. Alors elle me dit, bah, peut-être qu'il me montrera que c'est les États-Unis. Peut-être. Peut-être. Mais dans notre cœur, nous de chrétiens, c'est pas le Seigneur tient compte de nos désirs et de nos envies. Ça, c'est clair. Mais dans notre cœur de chrétien, il y a une priorité, c'est la confiance qu'on fait à Dieu pour que le plan qu'il a pour notre vie, c'est le meilleur chemin ou marché. Et le meilleur chemin ou marché, c'est peut-être pas celui auquel je pense. Moi, cette année, je me suis proposé de postuler pour la direction de l'école d'en face. Je trouvais que c'était un bon chemin pour lequel marcher, une responsabilité qui me convenait parfaitement, etc. Et bien d'autres raisons. Et pourtant, manifestement, c'était pas le plan de Dieu, parce que je l'ai raté. J'ai fait tout ce qu'il fallait et tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait, et je ne l'ai pas eu. De façon très ironique. Et ce sont mes collègues qui m'ont dit, Adrien, c'est que tu ne devais pas l'avoir. Elle dit, pourtant, toi, tu es chrétien, tu devrais le savoir. Ils me disent, si tu ne l'as pas eu, c'est parce qu'il y a une raison. Et en plus, elles en sont convaincues. Elle ne croit pas en Dieu, mais elle croit en tout. Hein? C'est écrit dans le grand rouleau, ça c'est Rousseau. Bon, elle dit, si tu ne l'as pas eu, c'est parce que tu es mieux en restant avec nous, qui sommes très sympathiques, m'ont-elle dit, et c'est vrai, qu'en allant prendre ce poste, avec peut-être bien des mauvaises surprises, plusieurs des mauvaises surprises, je les connais d'avance, mais voilà. Et en fait, nous, on se dit, tiens, moi, je prendrai bien tel chemin. Puis le Seigneur nous dit, mais écoute, moi, c'est pas le chemin que je veux pour toi, ou pas maintenant, ou faisons-lui confiance. Et ce tableau qui est accroché dans notre salon me rappelle, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. Et quand j'ai une telle réponse de la part de Dieu, pourquoi rester frustré ? Je dis non, Seigneur, si c'est ton chemin, c'est que c'est le meilleur chemin et c'est là que je serai bien. Et il y a vraiment cette promesse de bonheur, ce profit. Et puis, les lignes qui suivent, hein, si tu étais attentif à mes commandements ou à mes directives, à mes directions, là où je veux te placer, là où je veux t'envoyer, ce que je veux pour toi, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alors oui, c'est vrai que des fois, ça n'a pas toujours la couleur du bonheur qu'on pensait. Là où le Seigneur veut nous envoyer. Je dis, tiens, moi j'aurais préféré les States. Il m'envoie en Afghanistan. Oh, pas pareil. Et nous connaissons, n'est-ce pas, une famille qui a quitté les États-Unis ou la France pour aller là-bas. Mais ils savent que c'est leur place et que c'est là qu'ils seront, c'est là où Dieu nous place dans sa volonté. Qu'on est le plus heureux possible. Actuellement, nous réfléchissons un petit peu à venir sur Arles dans les années qui viennent pour nous rapprocher de l'Église. Ça ne me plaît pas, Arles. Franchement, ce n'est pas une ville que j'apprécie. Mais si le Seigneur nous montre que c'est vraiment ce qu'on doit faire, je sais que je serai plus heureux dans une ville qu'a priori je semble moins appréciée, peut-être sans raison, qu'en faisant qu'à notre tête, vous savez, là où on fait nos choix. Et donc, dans cette démarche de nous rapprocher d'Arles, nous avons commencé à visiter des maisons. Et vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Et nous avons donc visité en particulier 4 maisons sur Pont-de-Croix. Alors, Pont de Croce, c'est un beau quartier, tout ça, et ça devrait être un peu le sans doute sur Arles, un peu un symbole de bien-être. Hein. Mais sur les 4 maisons que nous avons visitées, 2 se vendent parce que les couples divorcent. Eh oui. 2 sur 4. Et c'est effectivement 50% des couples français qui divorcent. Alors on peut habiter à Pont-de-Croix et dans ces pénates, mais c'est pas pour autant que notre bien-être est comme un fleuve. Et nous avons visité en particulier la première maison qu'on y a visitée, très, très beau jardin, tout ce qu'on veut, mais la dame donc se séparait et on visite avec l'agent immobilier et elle nous dit, bon, il y a mon fils, là, je l'ai mis devant un film ou un jeu vidéo, mais il ne sait pas qu'on se sépare, il ne sait pas qu'on vend, il ne sait pas. Donc, essayez d'être discret. Et c'est vrai que vous visitez cette maison sur fond de divorce, vous n'entrez pas trop dans la chambre, vous ouvrez la chambre, il a le casque sur les oreilles, le petit, c'est même pas retourné, il a 9 ans, puis dans un mois, sa maison sera vendue, ses parents sont divorcés, et sa vie prendrait une autre tournure. Et là, nous sommes en face de ce texte, avec le Seigneur qui nous dit, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre, oh, si tu étais attentif à mes commandements. » Et c'est vrai que hier, c'était notre 17e anniversaire de mariage, et il y a une chose que je sais, c'est que je ne l'aurais jamais fêté si Christ n'était pas dans ma vie. Il y a des gens, ils font partie des 50% des Français qui ne vont pas divorcer. Puis il y a l'autre moitié qui fait partie des 50% qui divorcent. Je sais que sans Christ, j'aurais fait partie des 50% qui divorcent. Ça, c'est une évidence. Pour des bêtises, pour rien. Il ne s'agit pas de divorce avec des drames, hein, des violences physiques, etc., etc. Non, aujourd'hui, la plupart des gens divorcent parce que, voilà, il n'y a pas le feu à la maison, en réalité, mais on a une aventure ailleurs, on trompe l'un, l'autre, et puis bon. Alors oui, j'étais heureux de fêter ces 17 ans de mariage en sachant que cette postérité, ce bonheur, il me vient entièrement de la main de Dieu. C'est pas ma construction. Je me connais. On se connaît un peu, on connaît ses défauts, on se dit, oula, c'est pas moi qui serais allé jusque-là, c'est le Seigneur qui m'y a conduit, et il a bien fait de m'y conduire, et je suis heureux. Je suis heureux que le péché dans ma vie ne m'ait pas coupé le bonheur sous le pied, parce que c'est ce que le péché fait. Alors, cet enseignement du verset 17, « Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre », on se dit, mais moi, je suis chrétien. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, je ne vois pas en quoi ça me concerne. Je sais que le Seigneur m'enseigne pour mon bien, il me dirige dans le sentier, il dirige ma vie. Amen. Amen. Voilà. On dit, bon, mais ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, comme leur Sauveur et Seigneur. C'est dommage. Ils traversent l'existence sans l'auteur de leur vie, sans avoir dans leur vie celui qui les a créés et qui va les accompagner et les conduire. Quel dommage. Et on se dit, c'est pas pour moi. Mais si, c'est pour nous. Alors, je vous invite à reprendre le chapitre 48. Parce que les versets 1 et 2 nous disent, écoutez ceci, maison de Jacob, et nous pourrions transposer en disant, écoute ceci, église d'Arles. vous qui portez le nom d'Israël, là ça s'adresse, disant, ah oui, 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 vous êtes le peuple élu, le peuple de Dieu. Et nous, on dit, eh ben nous, on est des chrétiens. Ah oui, on porte le nom de chrétien, on dit, moi je suis chrétien. Comme à l'époque d'Ésaïe, il disait, moi je suis juif, je ne suis pas un païen. Moi, je suis l'Éternel, c'est Dieu qui dirige ma vie, ce n'est pas comme ces païens. Et nous, peut-être on se dit, mais moi, je suis un chrétien et c'est Dieu qui dirige ma vie. Mais il leur dit, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. De l'hypocrisie, des mots, du vent. Il dit, car ils prennent leur nom de la ville sainte, ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Mais pourtant, au verset 4, il dit, sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, que tu as un front d'airain. Au verset 8, fin du verset 8, il dit, je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Alors oui, le verset 1 et 2 est en train de dire ici au peuple d'Israël, vous n'avez d'israélite que le nom. Ah oui, vous êtes juif, ça c'est vrai. Vous vous réclamez de l'Éternel, c'est vrai. Vous avez le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, c'est vrai. Vous avez les prophètes. Vous avez les Écritures. Mais dans votre vie de tous les jours, vous n'avez de juif que le nom. Et nous, ce chapitre peut s'adresser à nous en disant, écoute ceci, Église d'Arles. Tu portes le nom de l'Éternel et de Christ et de Jésus-Christ sur toi, si bien que tu t'appelles un chrétien, que dans l'examen des jours qui défilent, est-ce que nous n'avons pas de chrétiens que le nom ? C'est puis une autre. Qu'est-ce qui distingue notre vie d'un chrétien ou pas ? Et malheureusement, souvent, notre semaine qui passe, notre mois qui a peu de chrétiens, le nom, mais pas la conduite. Pour ceux qui aiment boire, ils ont bu. Pour d'autres qui ont une tendance à la grossièreté, ils ont dit autant de gros mots que pour d'autres qui ont un peu la main au portefeuille difficile, ils ont triché avec les impôts autant que pour d'autres. Et puis on peut continuer. On a de chrétiens le nom, mais pas la conduite, pas la piété. J'ai ma journée, elle est comme celle de mes collègues autour. On va au boulot, on s'occupe de ses enfants. Si je suis retraité, je vais chercher mon pain, je fais mes courses, je vais à mes rendez-vous médicaux, je vais voir des amis. Mais rien ne distingue ma journée. Je n'ai de chrétien que le nom parce que la parole de Dieu, je ne l'ai pas ouverte. Je n'ai pas pris le temps qu'elle remplisse mon cœur. Je n'ai pas pris du temps pour parler avec mon Seigneur. Ma journée n'a de chrétien que le nom, mais pas la piété, pas la communion avec le Seigneur, pas la ferveur, pas le témoignage non plus. J'ai de chrétien le nom, mais je n'en parle pas. Je ne suis pas cet ambassadeur pour Jésus-Christ, conscient que les gens autour de moi sont séparés de Dieu et perdus. Alors j'ai de chrétien le nom, mais pas la fonction d'ambassadeur. où la parole nous dit, comme si Dieu exhortait par notre moyen, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. À quoi ressemble ma semaine, mon mois, mon année dans ma vie de chrétien, dans mon témoignage, dans mon service, dans ma communion avec Dieu, dans ma piété, dans ma conduite? Alors je crois que tout un chacun, nous pouvons nous dire, c'est vrai que dans plusieurs domaines de ma vie, peut-être pas dans tous, mais dans plusieurs domaines, certains domaines, je n'ai de chrétien que le nom. Et il y a un problème. Parce que le Seigneur voudrait que je vive une vie chrétienne pleine et entière, comme il le voulait pour Israël. Et nous sommes saisis, hein, de voir dans ce texte d'Ésaïe que les Juifs à qui Dieu s'adresse par Ésaïe, ils avaient le nom de l'Éternel à la bouche. Ils l'avaient, le nom. Ils jurent par le nom de l'Éternel. Ils invoquent le Dieu d'Israël. Attention, ils n'étaient pas sans une démarche religieuse, sans une forme de piété, sans une forme de culte. Non, ils avaient l'Éternel à la bouche. Ils l'invoquent. Ils jurent par son nom. Mais le reste ne suit pas vraiment. Et le Seigneur les regarde, et il me regarde, et il te regarde. Et au verset 4, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tu es endurci. Tu es endurci. Ton cou, c'est une barre de fer. Essayez de changer la barre de fer. On ne peut pas. Comment on fait pour les chevaux ? On met un mort, et puis on leur fait prendre la direction qu'on veut. On va tirer, hop, hop. Eh bien nous, Seigneur dit, ton cou c'est une barre de fer, ça ne tourne ni à droite ni à gauche, tu vas dans ta direction. Et je ne peux rien faire. Tu as un front d'airain. Nous on dit tu es effronté. Hein, c'est un peu ce terme, effronté. Une tête dure. Et cette résistance, elle est contre le Seigneur. C'est une résistance contre Dieu qui m'invite à arrêter, dans plusieurs domaines de ma vie, de n'avoir de chrétien que le nom. Et que mes journées, si on les examine, il y avait quoi vraiment de chrétien ? Il y avait quoi de fait à cause de Christ, en raison de Christ, pour Christ, avec Christ? C'est ça la question à se poser. Dans ma journée, dans ma semaine, qu'est-ce qui a été fait à cause de Christ ou pas fait à cause de Christ? Dis-moi, je suis chrétien, Jésus-Christ, son enseignement. Moi, je ne fais pas ça. Ou alors moi, au contraire, je vais avoir telle conduite parce que... Qu'est-ce qui a été fait à cause de Christ? Qu'est-ce qui a été fait pour Christ? Qu'est-ce qui a été fait avec lui? Et nous sommes dans cette communion. Et le Seigneur s'adresse à moi, à vous, et nous dit, est-ce que ce n'est pas ton cas là? Tu es endurci, ton cou c'est une barre de fer, t'as un front d'airain, t'es dans ta vie, tu avances dans ton existence, tu avances dans ta vie, et j'aimerais que ta vie chrétienne devienne une vraie vie chrétienne, pleine et entière, plus que de nom. Oui, tu m'invoques. Et tu le sais, c'est pas la première fois que je t'interpelle. C'est pas la première fois. Mais c'est dur de te faire changer de direction. Un coup qui est une barre de fer. Est-ce que cette résistance me caractérise? Nous avons besoin de nous poser cette question. Est-ce que cette résistance où le Seigneur veut que je cesse d'avoir finalement de chrétien qu'un vague nom, est-ce que cette résistance à l'appel de Dieu me caractérise? Et pourtant, le Seigneur atteste sa main dans notre vie. Il fait des miracles. Il opère des délivrances. il donne des bénédictions. Mais nous, nous sommes un petit peu comme Israël dans ce chapitre 48, où Dieu veut montrer qu'il a sa main dans leur vie, qu'il est vraiment celui qui dirige, qui conduit, qui prodigue. Il dit, mais en fait, vous voulez tout remettre en question, que ça ne vienne pas de ma main, à tel point que je suis obligé de vous prédire à l'avance des choses, faire des prophéties pour que vous ne puissiez pas me rétorquer que ça ne vient pas de moi. Voilà. Je suis obligé de vous dire, bon, écoute, je vais te faire une prophétie, comme ça tu ne pourras pas dire que c'est pas ma main dans ta vie. Et vous savez, nous pouvons devenir des chrétiens tellement endurcis que même lorsque Dieu répond à nos prières, parce qu'on lui a demandé ceci, cela, même lorsqu'il répond à nos prières, c'est-à-dire que finalement, quand les choses dans notre vie vont s'arranger ou vont aller dans le sens qu'on attendait, qu'on espérait une solution, une délivrance, on est tellement endurci qu'on est quand même capable de dire « Ouais, en fait, je ne sais pas si ça vient de Dieu. Enfin, bon, ça s'est solutionné, mais ce n'est pas Dieu. C'est peut-être Dieu, mais... » Tellement on ne veut pas tourner le cou pour changer de direction. Peut-être c'est une guérison, on va dire, bon, c'est Dieu, oui, bon, c'est surtout le médecin et les médicaments. Oh, tel emploi, eh bien, c'est parce que j'ai eu un ami là, que, heureusement, c'est qu'il était là, lui. Il m'a trouvé cet emploi. Oh, puis... Alors, tandis que nous résistons à Dieu et que notre vie n'a de chrétienne que le nom, Dieu pourtant, nous le voyons au verset 11, 9 à 11, Dieu ne nous juge pas selon ce que notre dureté mériterait. Il dit au verset 9, « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. » Oui, le Seigneur ne nous juge pas selon nos iniquités. C'est d'ailleurs un petit clin d'œil ici. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais on dit, tiens, pourquoi est-ce que le Seigneur dit « C'est pour l'amour de moi » au verset 11, « Pour l'amour de moi que je veux agir. » On se dit, c'est de l'amour propre. Hein, l'amour de moi, c'est l'amour propre. On dit, mais est-ce que l'amour propre, c'est de l'orgueil? Est-ce qu'il y a un amour propre sur le modèle de Dieu que nous sommes appelés à avoir? Un respect de soi-même. Et des fois on dit, mais t'as pas d'amour propre. T'as pas d'amour propre. C'est-à-dire que tu ne respectes même pas ta propre personne. Et le Seigneur, quand il dit ça, c'est pas pour de la fierté ou de l'orgueil. C'est parce que dans son amour propre, ce qu'il est, sa fidélité, il veut rester fidèle à ses valeurs, j'ai envie de dire. Et c'est ça l'amour propre, le bon amour propre. Il y a des valeurs que j'ai. Et j'ai quand même suffisamment d'amour propre pour ne pas sacrifier ces valeurs, ces choses-là. Et le Seigneur dit, moi, je suis ce que je suis saint, je suis pur, je suis fidèle, je suis... Et je ne vais pas m'asseoir sur tout ça. Je ne vais pas me laisser tenter par ce peuple rebelle et indocile pour agir finalement d'une manière qui n'est pas selon mon caractère le plus profond. Eh bien, j'ai suffisamment d'amour pour moi-même, d'amour propre. Je me respecte suffisamment pour garder la ligne malgré les provocations. Et c'est pour ça ici que le Seigneur ne juge pas selon la dureté qu'il mériterait, parce que en parallèle il y a sa fidélité, il y a son alliance, il y a son engagement, il y a son amour. Et Combien de fois je me suis dit, heureusement que le Seigneur ne m'a pas sanctionné, alors qu'au fond de mon cœur, je sais que je le mériterais. Mais il retient sa main. Il fait grâce. Cela étant, le verset 10 dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est-à-dire que le Seigneur place son enfant dans le creuset de l'épreuve, dans cette fournaise de l'adversité. Oui ? Quand le Seigneur constate dans notre vie que je suis endurci, que mon cou c'est une barre de fer, que mon front c'est de l'airain, c'est dur. Il n'y a rien qui veut pénétrer de ce que Dieu me dit. Eh bien, il peut placer dans l'épreuve. Pour que l'épreuve ramollisse cette dureté. Alors, nous arrivons au verset 16 et nous terminons. Nous sentons que nous avons besoin, oui, ça nous concerne. Le fait d'avoir besoin d'être enseigné par Dieu pour notre bien, c'est pas parce que nous sommes chrétiens, c'est pas parce que nous avons été baptisés, que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, etc. Et c'est pas pour ça que ça ne nous concerne pas. Le Seigneur veut pointer du doigt là où nous n'avons de chrétiens que le nom. Peut-être c'est pas dans tous les domaines de notre vie, mais c'est dans celui-là, c'est dans celui-là, c'est dans celui-là. Et on continue. Et le Seigneur arrive. Et le verset 16 dit, « Maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » Et ce verset parle en fait de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'Ésaïe ici. Il s'agit du Messie. Christ qui a été revêtu du Saint-Esprit et qui va s'adresser à Israël, mais qui s'est adressé aussi aux nations. Nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu s'adresser à nous. Regardez ce verset, il dit « Maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son Esprit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. » Le Seigneur a des choses à nous dire. Le Saint-Esprit qui vient dit « Écoute, maintenant je suis envoyé avec mon Esprit, et c'est Christ ici dont il s'agit, et j'ai des choses à te dire de la part du Père, j'ai des choses à te dire de la part de Dieu, de ton Créateur, de l'Éternel, de ton Rédempteur. » Laissons le Saint-Esprit s'adresser à nous. Dans tout le début du chapitre 48, nous voyons un Israël qui n'a d'israélite que le nom et qui est dur et qui discute même la main de Dieu. Pourtant qui invoque avec ses lèvres Dieu. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Et là, il y a quelque chose qui change. Et pour nous, ce qui va permettre de changer, c'est que nous puissions accueillir ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Il nous dit, écoute, tu continues d'avoir dans telle zone de ta vie de chrétien que le nom, parce que c'est pas vrai, tu n'as pas mis en œuvre ce qui devrait être mis en œuvre si tu obéissais, si tu écoutais mes commandements, si tu écoutais ma directive, ma direction. Et le Seigneur dit, mais c'est dommage. C'est dommage. parce que moi je veux déverser dans ta vie mon instruction pour ton bien, pour ton profit. Ça t'intéresse pas? Ça t'intéresse pas? Tu continues dans ton entêtement? Seigneur nous dit, écoute, moi je n'attends qu'une chose, c'est de déverser dans ta vie des bénédictions. Je n'attends qu'une chose, c'est de déverser une instruction qui va t'ouvrir des portes, t'ouvrir des horizons, porter des fruits de l'esprit d'ailleurs. La joie, ça ne m'intéresse pas la joie. La paix, ça ne m'intéresse pas la paix. Notez que le dernier verset du chapitre dit « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » On y reviendra, mais Seigneur dit « Moi, je n'attends qu'une chose, c'est de déverser dans ta vie de bonnes choses. » Alors, est-ce que tu veux m'écouter? Moi, je n'attends qu'une chose, c'est de te diriger dans la voie que tu dois suivre. Toi, tu te poses des questions, est-ce que je dois faire ceci dans ma vie, faire cela, quel choix faire, où aller Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble et en discuter ensemble? Ou est-ce que tu veux continuer d'en discuter tout seul avec toi-même, sans que j'aie mon mot à dire? Oui, mais moi, Seigneur, je veux vivre aux États-Unis. Absolument. Soit ton choix, c'est celui-là, soit tu peux t'écarter de ma vie. Hein? C'est souvent comme ça qu'on agit avec le Seigneur. On lui dit, écoute, moi j'aimerais ça, donc si tu es d'accord, eh bien, je suis d'accord avec toi, puis si tu n'es pas d'accord, ben, tant pis pour toi. Je le ferai quand même. Hein, c'est... Le Seigneur nous dit, mais attends, toi, tu penses que ça va être la meilleure place pour toi. Laisse-moi te montrer autre chose. Fais-moi confiance. Et tout est une question de confiance ici. Est-ce que nous sommes prêts? Et le Saint-Esprit nous dit, est-ce que tu es prêt à me faire confiance pour ta vie dans le fait que écouter mon instruction et la mettre en œuvre dans ta vie, ça va être pour ton profit, pour ton bonheur. Et le fait que dans tes choix, dans la direction que doit prendre ta vie, laisse-moi dire mon mot et tu verras que ça sera toujours le meilleur choix. À la fin, fais-moi confiance. Et le verset 18 est, je trouve, saisissant. C'est un cri du cœur de Dieu. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements. Et on imagine vraiment, là, on regarde le Seigneur qui voit son enfant têtu, qui voit toute la dimension de bonheur qu'il a en réserve, qu'il a une direction, mais son enfant qui est têtu et qui ferme son oreille. Et le Seigneur qui est devant, qui dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme les flots de la mer. Mais quelle bêtise! Quelle bêtise! Et le cri du cœur de Dieu, c'est « Pourquoi passes-tu à côté du bonheur ?» Dans ce texte, c'est ça. Pourquoi t'entêtes-tu? Pourquoi t'entêtes-tu à passer à côté du bonheur? Mais parce que Seigneur, le bonheur que tu me dis... Je ne suis pas sûr qu'il soit là, le bonheur. Je ne suis pas sûr, Seigneur, que le bonheur, ce soit dans le chemin que tu m'indiques de prendre, parce que moi, je crois plutôt qu'il est dans l'autre. Je ne suis pas sûr que le bonheur, il soit dans l'instruction que tu me donnes, parce qu'elle me dérange, parce qu'elle me contrarie, parce qu'elle me gêne, parce qu'elle m'empêche peut-être. Moi, je ne vois pas, Alors, il y a deux issues. Et le Seigneur vraiment s'adresse à nous en disant, « Ok, tu es chrétien, tu as le nom de chrétien. Mais dans ta vie, regarde bien ce qui n'a de chrétien que le nom, mais pas du tout la conduite, pas du tout la ferveur, pas du tout le service, pas du tout la communion. Regarde bien les instructions que j'aimerais te donner, mais que tu n'es pas prêt à recevoir. Il dit, oh, si tu étais attentif, mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme les flots de la mer. C'est tellement dommage d'avancer un jour après l'autre, une semaine après l'autre, une année après l'autre, une décennie après l'autre, et de continuer avec un front d'airain, sans répondre à l'appel du Saint-Esprit qui nous parle et qui veut qu'enfin on puisse vivre pleinement le bonheur que le Seigneur veut nous donner par une vie qui est vécue sous sa volonté, selon sa volonté, selon sa direction, dans son plan à lui et avec ses instructions. Alors, il y a donc deux issues. La première, c'est continuer avec mon front d'airain. C'est continuer. Et c'est pour ça que le chapitre se termine en rappelant, parce que c'est un verset, on a l'impression que c'est un cheveu sur la soupe à la fin. C'était tellement bien parti, la fin, elle était tellement, c'était tellement une apothéose. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira, il fera jaillir pour l'eau, pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher, l'eau coulera. Ah ça y est, c'était l'apothéose de la délivrance, ouais. Comment je fais sur la soupe à la fin? Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il nous rappelle. Il dit attention, il y a deux issues. Tu peux continuer encore demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Et pendant 10 ans, tu peux continuer avec ton front d'airain. Tu ne trouveras pas la paix. Tu ne trouveras pas la paix. Et tu continues avec ce front d'airain en croyant atteindre, en courant après la paix, une plénitude, en cherchant une plénitude, mais tu ne la trouveras pas. Et puis il y a une deuxième issue. Le texte nous dit ici au verset 20, cette deuxième issue, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Voilà la deuxième issue. C'est sortir de Babylone, c'est-à-dire sortir d'une vie où je ne laisse pas à Dieu son mot à dire. Voilà un petit peu ce que Babylone représente. C'est le système du monde ou le système d'un chrétien qui a cloisonné sa vie avec des lèvres qui célèbrent Dieu d'un côté, c'est le début du chapitre, et de l'autre, il mène sa vie à sa guise. On ne le distingue quasiment pas d'un non-chrétien. Parce qu'il y a plein de non-chrétiens qui ne sont pas des gens pleins de vices et pleins de choses odieuses. Hein. Il y a entre guillemets des gens bien. Je rappelle que personne n'est bien aux yeux de Dieu, mais on se comprend. J'ai une vie correcte, mais comme plein de gens qui ont une vie correcte. J'ai des petits trucs un peu moins corrects, comme tout le monde qui a des trucs un petit peu moins corrects. Ça, c'est Babylone. Et le Seigneur me dit, sortez de Babylone. Sortir de cette captivité. Babylone, c'était un pays étranger où les enfants d'Israël avaient été emmenés en captivité. Seulement 5000 vont revenir de captivité. C'est pas beaucoup. Sortir de cette captivité de n'avoir de chrétien que le nom. Et alors, quand on le fait dans cette issue-là, il y a des sources qui jaillissent. Alors, attention, sortir de Babylone, en sortant de Babylone, en sortant de cette vie dont j'ai pris l'habitude, toutes ces zones où je n'ai de chrétien que le nom, attention, il y a des déserts à traverser. Quand je sors de Babylone, je rencontre le désert. Mais dans ce désert, le Seigneur dit, ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Oui, il y a des déserts. Mais d'abord, c'est le Seigneur qui conduit dans le désert. Ce n'est pas une errance sans guide. Je suis dans le désert et je suis perdu et je tourne en rond dans le désert. Non, non. C'est le Seigneur, certes, qui m'emmène dans ce désert, mais qui me conduit. Je vais le traverser avec lui, ce désert. Mais qui plus est, il va étancher ma soif. Dans ce désert, il va faire jaillir de l'eau. Et c'est une promesse que le Seigneur nous laisse. Est-ce que ce matin, nous voulons répondre au Seigneur en disant « Oui, je vais sortir de Babylone. Je vais sortir de cette vie chrétienne qui n'a de chrétienne trop souvent que le nom. » Pour entrer vraiment, Seigneur, dans le plan que tu as pour ma vie, dans la plénitude de ce que tu veux pour moi. Prions. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous instruit pour notre bien, pour notre profit, et qui ne nous laisse pas vagabonder. Mais lorsqu'on est prêt à écouter ta voix, Seigneur, tu nous diriges dans le chemin que l'on doit suivre. Et c'est très bien comme ça. Merci, Seigneur, parce que nous sommes là où nous sommes le plus en sécurité, c'est au centre de ta volonté. Là, Seigneur, où nous serons le plus heureux, c'est là où tu veux nous placer. Les choix, Seigneur, qui nous rendront le plus heureux sont ceux que tu nous invites, que tu nous sollicites à faire. Seigneur, aide-nous à te faire une pleine confiance et à sortir de cette Babylone dans laquelle nous sommes en captivité, prisonniers, et où nous vivotons une vie chrétienne. Seigneur, tu nous as sauvés pour que tes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et quel dommage! Lorsque nous faisons le point et que nous nous rendons compte, Seigneur, que nous vivotons notre vie chrétienne. Et ton cœur nous dit, oh, si tu étais attentif. Attentif à mes appels, attentif à ce que j'ai à te dire, attentif à mes directives, ta vie serait tout autre. Alors Seigneur, aide-nous à prendre la décision de ne pas continuer à vivoter, mais par la foi, dans une confiance avec toi, nous lancer. Et tu nous ouvriras, Seigneur, des sources qui vont jaillir, qui vont nous étancher, qui vont nous abreuver, et qui vont nous apporter tout ce fruit, Seigneur, par lequel tu veux nous bénir et nous rendre joyeux avec toi. Au nom de Jésus. Amen.